With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team, un FC Stream Team non pas du vendredi, mais du lundi soir, puisque l'équipe de France oblige. On va débriefer cette rencontre, ce match nul en Croatie avec Arthur Merle qui me rejoint ce soir. Salut Arthur.
Salut Maxime, salut tout le monde.
Un partout en Croatie, 10 petits nouveaux par rapport au Danemark sur le terrain, c'est évidemment pas terrible. On va se poser la question évidemment du mérite de ce point, est-ce que c'est un bon point? Est-ce que c'est un mauvais point? On va évidemment décrypter cette rencontre en trois points précis. On va commencer, on va revenir sur les notes du match, les notes débriefées, vous en avez pris l'habitude. Arthur, tu as fait les notes et on va s'attarder sur le cas Ben Yedder qui est un paradoxe à lui tout seul. D'où la difficulté aussi de noter des joueurs puisque, on va faire simple, il est fantomatique en gros pendant 62 minutes, mais il donne cette belle passe décisive à Rabiot. Tu lui as mis 4, on en parlera dans la première partie de l'émission pour savoir si c'est sévère ou si c'est mérité. Le deuxième point sera autour de cette équipe de Romagné, et surtout de ce retour au 4-2-3-1, le fameux 4-2-3-1 russe qui avait permis aux Français de gagner la Coupe du Monde, avec Rabiot qu'on avait vu aussi, souvenez-vous, en 2020 au Portugal, qui avait fait un match assez énorme dans cette position matuidesque. Il a marqué ce soir, alors on va se poser la question tout simplement, est-ce que c'est une solution d'avenir? Est-ce qu'il faut commencer à repartir là-dessus ou il faut continuer à s'accrocher sur le 3-5-2 que Deschamps a installé depuis bientôt 10 mois? Et la troisième partie de l'émission, elle parlera des joueurs évidemment, il y avait comme on l'a vu 10 nouveaux titulaires. On va poser la question tout simplement de ceux qui ont marqué des points. On va démarrer tout de suite avec le premier point, les notes débriefées et on va s'attarder sur le cas Ben Yedder. Arthur, tu lui as mis 4. Pourquoi 4?
Effectivement, tu l'as dit en introduction, Maxime, très compliqué de noter Ben Yedder ce soir parce qu'effectivement, très, très, très peu de ballons touchés. Il termine le premier acte avec 8 ballons touchés. Il en touche 4 avant sa sortie, un peu après l'heure de jeu, enfin, peu après la pause. Son remplacement par Antoine Griezmann. 12 ballons au total, c'est plus que maigre. Hein, c'est près de 4 fois moins que Mike Maignan, son gardien, en termes de nombre de passes, par exemple. Et il y a quand même cette petite fulgurance, cette passe décisive, qui est une vraie passe décisive, parce qu'il vient chercher le ballon, Rabiot s'appuie sur lui, donc il y a la qualité pour décrocher, pour se retourner, se mettre dans le sens du jeu, mettre ce ballon. Alors, je serais tenté de dire mauvais pied, pied gauche, mais Ben Yedder, il est un petit peu ambidextre. Ballon parfaitement dosé, donc vraie passe décisive, contrairement à certaines qui parfois sont là pour faire un petit peu les stats. Mais à côté de ça, c'est tellement faible, c'est tellement fantomatique. C'est même pas faible en fait, parce qu'il n'y a pas des pertes de balles de Ben Yedder qui m'ont choqué ou des frappes ratées, puisqu'il n'y a pas eu de frappe. C'est tout simplement qu'il a traversé 99% de ce match comme un fantôme. Et ça commence à faire beaucoup, beaucoup de matchs de ce type-là pour Ben Yedder en équipe de France quand même.
Bah, il n'y a que ça finalement, c'est terrible, parce que c'est un joueur qui sort de sa saison la plus prolifique en Ligue 1, c'est un joueur qui marque but sur but avec l'AS Monaco, c'est un joueur qui même à un moment se retrouvait remplaçant, souvenez-vous, sous Kovac, et qui marquait quand même, donc c'est une machine à but tout simplement. Et il se trouve qu'en équipe de France, ça ne prend pas, tout simplement. Ça fait 19 sélections, il a marqué 3 buts, dont un contre l'Afrique du Sud récemment, et les deux autres contre Andorre. Alors, j'ai rien contre Andorre, mais il se trouve que c'est deux fois contre Andorre, donc 2/3 de ses buts ont été mis contre Andorre. Et surtout, 100% de ses matchs sont fantomatiques, il faut le dire. Alors, c'est toujours la question aussi de l'œuf ou de la poule, c'est-à-dire à qui la faute? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas servi? Est-ce qu'on ne le trouve pas? Ou est-ce que c'est lui qui ne rentre pas dans le moule? C'est compliqué, tu l'as dit tout à l'heure. 8 ballons en première période. Alors, un attaquant de pointe touche rarement beaucoup de ballons, mais là, 8, c'est vraiment pas beaucoup. Et je me souviens notamment de 2 qui sont touchés côté droit, donc assez loin de la zone d'influence, là où on l'attend. Donc, en fait, il agit un peu comme un poids mort et sans qu'on arrive vraiment à comprendre pourquoi, encore une fois, parce que ce n'est pas un problème de talent. C'est un joueur qui, dans les petits périmètres, devrait y arriver. Alors, je ne vais pas comparer avec Mbappé et Benzema, parce que, évidemment, c'est niveau au-dessus, mais ce sont des joueurs qui savent jouer dans les petits périmètres, qui savent évoluer dans ces endroits-là. Et lui, n'y arrive pas, il n'y arrive jamais. Et c'est vrai que quand on regarde son match, tu lui mets 4, ce qui me paraît juste parce que justement il y a cette passe décisive. Parce que s'il n'y a pas la passe décisive, c'est un 2, un 2,5, voire 3, mais ça ne va pas plus haut. Et soit dit en passant, tu l'as dit, la passe décisive, elle est magnifique. Il y a un 1-2 avec Rabiot. J'aurais pas mis très cher sur ce duo-là pour débloquer la rencontre ou ouvrir le score après la première période. Mais en effet, ce sont eux qui l'ont fait. Et c'est vrai qu'il faut rendre hommage à cette passe. Après, ce qu'on peut regretter évidemment, c'est qu'il sorte à la 62e minute. Voilà. On peut se dire, il vient de peut-être lancer son match, il y a peut-être quelque chose à voir avec lui, et Didier Deschamps décide de le faire sortir, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, de l'œuf ou la poule, à qui la faute, est-ce qu'on lui, il a sa chance, il ne la prend pas, et au moment où on dit que ça va aller un peu mieux, il ressort. Moi, j'ai aussi une pensée indirectement pour Olivier Giroud, qui, bien loin de l'équipe de France, doit dire quand même, oui, mais moi, quand je suis là, je fais le job. Alors évidemment, ça dépasse le cadre du terrain. Il y a tout ce qu'il y a dans la vie de groupe. Sûrement que Ben Yedder est un formidable camarade dans cette vie de groupe. Mais à un moment, c'est compliqué. C'est vrai que quand on voit que Giroud est de côté, quand on voit les parties de Ben Yedder, il y a quelque chose qui est particulier quand même.
Et pour rebondir sur ce que tu dis, sur sa sortie un petit peu précoce à Ben Yedder, Rabiot, lui, fait une première période très très compliquée où on le voit très peu. Et justement, ce but le met dedans et on voit que derrière Rabiot il est monté en puissance, on l'a beaucoup plus vu, il est intervenu. Et c'est vrai qu'on peut regretter ça, on aurait aimé voir Ben Yedder un peu plus sur la durée. Et ce que je regrette, c'est que certes un attaquant de pointe n'est pas là pour toucher 100 ballons dans la rencontre, mais aujourd'hui il avait la place pour le faire, Ben Yedder, beaucoup plus, parce que Mbappé, Benzema, Griezmann n'étaient pas là, du moins pas au départ pour tous. Et qu'il y avait la place pour alterner avec Nkunku dans les décrochages. Alors Nkunku était beaucoup plus libre, Diaby venait un petit peu à l'intérieur aussi, mais globalement il était très cantonné à son couloir droit. Rabiot était dans un registre bien différent, donc je regrette un peu quand même que Ben Yedder soit pas plus venu décrocher, même si il avait pas pesé dans la surface, mais qu'on l'avait beaucoup plus vu dans le jeu. On aurait pu tempérer un peu plus et peut-être mettre un point de plus sur cette note, mais là c'était vraiment, c'était trop trop faible.
Non, parce que tu as raison quand tu dis il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas Benzema. Ça pourrait être, on pourrait se dire le contraire, se dire bah oui, mais justement il avait plus à faire. Mais d'un autre côté, comme on a toujours l'impression qu'il y a un petit plafond de verre et qu'il n'y arrive pas même quand il y a les autres, on peut se dire bah à un moment quand il n'y a pas les autres, peut-être que ça va le libérer. Eh bien non, ça ne le libère pas, ça ne fonctionne pas. Et là ce que je vois, c'est que on est en train d'aller petit à petit vers un peu une carrière internationale à la Anthony Martial, c'est-à-dire que beaucoup de sélections. Alors lui, à la différence d'Anthony Martial, parce qu'à un moment quand il a mis, je crois, le but en Ukraine, justement, c'est la dernière fois ils avaient joué à 4 derrière, il devait être à quelque chose à 29 sélections, et je me souviens avoir tweeté quelque chose, me disait oui mais il n'est jamais titulaire, sauf qu'il avait été titulaire 14 fois, donc c'est quasiment la moitié des matchs, et pourtant il ne marquait pas. Alors Ben Yedder, lui, il a pour lui, entre guillemets, ou à sa décharge, d'avoir beaucoup moins de titularisation. Il me semble que c'était la 6e ce soir, donc c'est un tiers des matchs. Mais n'empêche qu'il ne pèse pas, voilà, c'est le joueur qu'on voit, un joueur assez soyeux, qui sait faire des choses dans le petit périmètre, mais avec l'équipe de France ça ne marche pas, et comme tu l'as dit, s'il recule il va chercher des ballons. Je pense qu'il a le jeu aussi, la technique pour aller évoluer ailleurs, mais ça ne prend pas, et surtout en première mi-temps, il a vraiment, on va dire, pâti de la concurrence et même la comparaison, pardon, avec Nkunku et Diaby, qui, sans être fantastiques, ont eu deux occasions qui ont montré que ils pouvaient aussi élever leur niveau de jeu, et ça on en reparlera tout à l'heure, parce que là je suis en train de sauter des étapes. On va parler du deuxième sujet, c'est-à-dire de cette équipe quand même, il faut le dire. 10 nouveaux par rapport au premier match. Didier Deschamps voulait donner du temps de jeu à ses joueurs. Il a donné du temps de jeu et des titularisations, pardon, à 21 joueurs sur 2 matchs, qui est vraiment énormissime. Alors évidemment, c'est difficile de trouver des automatismes. C'est sans doute aussi pour ça, et avec les pépins, l'absence de Varane, qu'il est repassé à un système qui était bien connu des Bleus pendant très longtemps, et jusque justement ce match de l'Ukraine dont je parlais tout à l'heure en septembre. Depuis, on avait une défense à 5 ou à 3, évidemment, quand on attaque, ça dépend des pistons, avec un Didier Deschamps qui expliquait « j'accepte, moi ». Et c'est sûr que quand on défend à 3, il y a plus de duels, plus de 1 contre 1, plus de risques. Là, les Bleus sont passés à 4 derrière et bah, malheureusement, on a vu quand même les mêmes soucis que vendredi face au Danemark. C'est des problèmes d'alignement. Je les résume très vite, après je te laisse la parole. Début de match, un double alignement qui est assez mauvais entre, je crois, Kimpembe et Digne. Kimpembe rattrape le coup. Et puis sur le but, là, c'est la totale. C'est un double mauvais alignement, Pavard puis Pavard-Digne. Et ça donne le pénalty sur la faute de Klaus. Donc on a vu des problèmes qui n'existaient pas forcément auparavant et qui ne sont pas forcément rassurants, même à 4 derrière.
Ouais, je suis d'accord là-dessus, on a vu des problèmes assez similaires. Après, je trouve quand même que sur 80% de la rencontre, on a retrouvé justement l'équipe de France version 4-4-2 ou 4-2-3-1, on l'appelle comme on veut. C'est-à-dire une équipe de France voilà, qui nous propose beaucoup moins de folie dans son jeu, mais qui est quand même globalement très bien organisée, qui concède assez peu d'occasions. Mike Maignan, il a eu très peu de travail jusque, enfin, avant les 20 dernières minutes. Donc une équipe quand même très solide, avec effectivement ce rôle à la Blaise Matuidi pour Adrien Rabiot. J'ai trouvé ça, moi, plutôt intéressant en termes d'organisation et de cohérence. C'était pas beaucoup de folie dans le jeu, mais par contre, c'était costaud. J'ai beaucoup aimé qu'il y ait beaucoup d'impact de la part de Tchouaméni, Rabiot, Guendouzi. Il y avait beaucoup de joueurs capables de mettre de l'impact au milieu de terrain. Les latéraux ont été un petit peu moins exposés aussi. Pavard, il était en difficulté ce soir, mais plus dans l'alignement que dans la gestion des 1 contre 1. Après, l'autre problème de ce repassage à 4 derrière, c'est que forcément, ça bride un peu plus les latéraux offensivement. Et moi, il y a l'exemple Lucas Digne qui m'a quand même marqué. Il a un ou deux bons centres en première période, bon, qui ne trouve pas preneur, mais la zone était plutôt bonne. Mais je trouve qu'on l'a beaucoup trop peu vu, Digne, par rapport à ce qu'il avait pu faire assez récemment dans un rôle de piston. Je trouve ça dommage de brider. Enfin, je trouve ça dommage, ça va avec d'autres avantages de ce système-là. Mais c'est l'un des problèmes, c'est qu'on retrouve des latéraux un peu plus neutres offensivement.
Après, là, je sais pas si c'est le système pour Digne, parce qu'on l'a déjà vu, même dans 4-4-2, attaquer très correctement. Souvenez-vous, avant l'Euro, c'était plutôt pas mal. Et c'était vraiment la solution derrière Lucas Hernandez, c'était vraiment la solution. Mais c'est vrai, comme tu le dis, quand on passe d'un 3-5-2 avec Théo Hernandez, notamment à gauche, qui déboule comme une balle pendant 90 minutes, c'est sûr que c'est pas la même chose. Et puis Pavard à côté, c'est pas le match de sa vie, mais c'est sûr qu'il est encore plus, il est un peu plus à l'aise dans cette situation-là d'arrière latéral. Je pense que Deschamps a eu raison de jouer à 4 derrière parce que ça demandait trop d'ajustements, à mon avis, avec une toute nouvelle défense. Ce sont des joueurs qui, pour certains, sont habitués à jouer à 3, mais on sait que c'est plus difficile, c'est moins culturel, et 4-4-2 va dire que c'est plus simple. Moi, ce qui m'a inquiété, en fait, c'est ces histoires d'alignement. Je pense que ça se joue aussi autour du manque d'automatisme entre eux, mais c'est vrai que 3 erreurs comme ça d'alignement et 2 sur le but, alors évidemment, la faute est de Klaus à la fin, mais si il y a au moins sur un des deux ballons un alignement correct, il n'y a pas de problème. Et j'ai rarement vu ça, pour être tout à fait honnête. Et donc, c'est sûr que ça pose problème. Maintenant, ça a permis de revoir cette situation en 4-2-3-1, qui reste quand même, je pense, une valeur très correcte en fonction des pépins. Ce serait un peu le miroir de ce qu'on a vu à l'Euro. C'est passer de cette situation à un 3-5-2. Bah là, maintenant, on passerait du 3-5-2 au 4-2-3-1. Voilà, tout n'est pas acheté là-dessus. Mais je pense qu'on se fera une idée de ce système-là quand on le reverra avec plus de titulaires, parce que ce soir, évidemment, c'était le grand chamboulement, avec, on le répète, 10 titulaires sur 11 qui ont changé par rapport au Danemark. Seul Aurélien Tchouaméni était là. Donc voilà, je pense que c'était l'occasion a fait de la ronde pour Didier Deschamps. Il s'est dit, en plus, on va mettre ça, on va voir comment ça se passe. Ça s'est, on va dire, moyennement passé, mais au moins, il sait qu'il y a toujours cette solution-là. Mais mon avis, je ne sais pas ce que tu en penses, Arthur, c'est qu'il reviendra très vite au 3-5-2 parce que c'est son idée fixe depuis l'Euro, je le mets à part, parce que c'était aussi une forme de bricolage en fonction de ce qui arrivait, mais au moins depuis la rentrée avec les joueurs qu'il a. Donc je pense notamment que vendredi en Autriche, on passera quand même sur ce système.
Oui, je suis tout à fait d'accord parce qu'il y a des éléments tellement mis en valeur qui apportent tellement à cette équipe dans ce système-là, je pense à Théo Hernandez offensivement, que ça me paraît inévitable. Et surtout, là, c'était plus facile de le faire ce soir en mettant autant de titulaires habituels sur le banc, parce que quand Mbappé, Benzema et Griezmann vont être de nouveau dans le 11 titulaire, on va se poser exactement les mêmes questions, c'est-à-dire où est-ce qu'on fait jouer Griezmann si on joue en 4-2-3-1 avec Benzema et Mbappé, est-ce qu'on le redécale sur le côté droit, c'est, voilà, c'est compliqué. Donc si Didier Deschamps reste dans cette idée d'avant tout mettre en valeur ces trois forces majeures offensives, évidemment qu'on repassera ce système en 3-5-2. Mais du coup, moi, je me pose quand même un petit peu des questions. J'ai du mal à voir où Didier Deschamps il veut aller parce qu'on repasse à 4 et à la fois, on le fait avec une équipe de remplaçants. Donc, moi, ça me paraît un petit peu flou tout ça.
Moi, je pense que ce soir, c'est le pragmatisme, mais oui. C'est-à-dire qu'il voit son équipe vendredi qui est cramée, il perd Varane. La meilleure solution, c'est de faire des changements. Je pense qu'il avait dit au début du rassemblement qu'il jouerait, je demande, à faire tourner les joueurs, parce que 4 matchs à ce moment-là de l'année, et on ne va pas se mentir, hein, il l'a même dit tout à l'heure, c'est aussi de la préparation, c'est une semi-compétition. On va dire qu'elle compte quand on la gagne, et quand on est un peu moins bien, ça sert à préparer. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, je pense qu'il se retrouve dans une situation où il voulait faire tourner, mais je ne suis pas certain qu'il aurait fait tourner déjà, ou au moins dans cette ampleur-là. Donc là, je pense qu'il s'est retrouvé à 4, parce que tout simplement, il y avait trop de changements à faire, et de ne pas trop désorganiser et de poser problème aux joueurs. Si ce soir il est à 4 changements, parce qu'il aurait fait des changements, mais au moins, allez, disons à 4 changements par rapport au premier match, on serait resté à un système à 3 derrière. Là, je pense vraiment, c'est qu'il s'est dit que c'était la moins mauvaise des solutions. Bah, si ça gagnait, ça faisait 3 points. Au pire, c'est un point de prix. Est-ce que ça suffira pour la première place? C'est autre chose. Je pense que vraiment, pour moi, il a agi en fonction de ses problèmes, on va dire, et de ses possibilités du moment. Et vendredi, on repasse à 3 derrière avec la triplette devant. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, assez justement, tout part encore une fois de cette triplette devant. Tant que le duo Benzema-Mbappé doit être dans les meilleures conditions, tant que Griezmann reste à ses yeux un titulaire, il ne changera pas. Voilà. Donc je pense en effet qu'on repassera très vite au 3-5-2. On passe au troisième sujet. Le troisième sujet, bah, il va parler des 10 qu'on a vus. Enfin, on va peut-être pas parler des 10 parce que sinon on est là pour la nuit. On va parler tout simplement des joueurs qui, quand même, au cœur de ce match qui n'est pas fantastique, bah, auraient marqué des points, se seraient montrés aux yeux du sélectionneur. Et je sais que tu voulais parler d'un joueur qui joue en Allemagne de l'Est à Leipzig, qui avait été assez timide sur ses premières sélections et qui, pour le coup, en Croatie, a montré autre chose.
Exactement, Christopher Nkunku, que j'avais trouvé, qu'on avait tous trouvé effectivement timide contre la Côte d'Ivoire. On sentait clairement le poids du maillot bleu sur ses épaules, ça transpirait. Et là, je l'ai trouvé, alors transfiguré, le mot est peut-être un petit peu fort, mais je l'ai trouvé très serein, très à l'aise. Il était, alors, son positionnement très libre l'a peut-être mis encore plus en confiance. Il était un petit peu derrière l'attaquant, avec beaucoup de liberté, un rôle et un positionnement qui a confirmé le fait que c'est un joueur extrêmement polyvalent, capable de faire plein de choses. Il a été au départ de certaines actions, avec notamment une ouverture pour Diaby, une autre pour Griezmann en fin de match. Il a été à la finition d'autres situations, avec ce but refusé pour hors-jeu. Il est venu réclamer, il a su jouer dos au jeu, se retourner, il a fait pas mal de choses. Et j'ai trouvé son association avec Moussa Diaby assez intéressante. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est compliqué de trouver des automatismes quand il y a autant de changements dans une équipe. Pour le coup, là, il y a peut-être quelque chose à peaufiner. Alors, c'est des profils de joueurs, d'impact player, on va dire, dans une configuration normale, de joueurs qui vont plutôt venir apporter une plus-value en sortie de banc. Mais cette connexion Diaby-Nkunku, moi, je l'ai trouvé très intéressante. Diaby a peut-être eu plus de déchets. Il a souvent joué un petit peu, il a souvent eu un petit peu de mal à se retourner, à se mettre dans le sens du jeu. Par contre, à chaque fois qu'il a su le faire, ça a été dangereux, là aussi, ça a été tranchant. Et ces deux joueurs, en plus d'avoir noué une connexion assez intéressante, ils ont eu comme point commun de jouer assez libéré, avec du cran, avec du caractère, avec de la personnalité, en fait. C'est ce que j'ai aimé chez Nkunku en particulier, mais chez ces deux joueurs-là.
Ouais, je suis d'accord avec toi. On parlait de Ben Yedder tout à l'heure. Lui, pour le coup, il a quand même un certain nombre de sélections. Il est là depuis longtemps. Et c'est ce qu'on attendait de lui. Voilà. Nkunku, il a eu des débuts en équipe de France un peu décevants, parce qu'on a fini par attendre beaucoup de ce joueur-là, parce que ce qu'il a réussi à Leipzig, c'est assez énormissime. Il est dans le top 5 des joueurs les plus décisifs dans les grands championnats européens. Et il se trouve qu'en équipe de France, bah voilà, des fois, le maillot change, la couleur du maillot change, mais il y a une autre attente, et ce n'est pas évident. Et ce qui est bien, c'est qu'il ait réussi à faire ça, en fait. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas, j'allais dire, le chat, les chats n'étaient pas là, Griezmann, Mbappé et Benzema. Bah, il a un peu pris les choses à son compte. Alors, il y a ce début de match qui est un peu timide à l'image de toute l'équipe de France. Et puis après, il s'est mis dedans. Alors, il marque ce but, le piqué, il est hors jeu, mais le geste est très beau, il ne tremble pas. Il donne cette passe à Diaby, qui est parfaite dans le timing. Diaby ne va pas marquer derrière, il bute sur le gardien croate. Mais en fait, on a vu des bonnes choses et on l'a vu aussi prendre des coups, alors dont un tacle qui aurait sûrement mérité un peu plus que le jaune. Et c'est toujours bon signe, en fait, quand on prend des coups, parce que ça veut dire que vous faites peser un danger et que vous osez prendre le ballon, que vous osez provoquer. Donc voilà, il s'est comporté comme on espère qu'il se comportera à l'avenir. Il n'y a pas encore une place à prendre dans ce 11 de l'équipe de France parce que Griezmann n'est pas encore sorti, mais c'est sûr que le Griezmann d'aujourd'hui est un peu plus problématique. Le Griezmann d'aujourd'hui, le Griezmann d'hier, quand il était moins bien, il se réveillait toujours. Le Griezmann d'hier, il avait Fekir dans le dos qui jouait, on va dire, les remplaçants derrière lui, mais on ne pouvait pas dire qu'il le titillait beaucoup et qu'il arrivait à prendre le dessus. Ben Nkunku, c'est peut-être le joueur aussi qui peut titiller Griezmann. Et s'il y a une place à se faire, elle se trouve peut-être là. Alors, on ne va pas encore enterrer Griezmann. On n'enterre pas Griezmann après 106 sélections. On l'a vu plusieurs fois à la peine. Mais c'est vrai que sa rentrée est tout juste moyenne et on attend plus de lui. Et c'est vrai que s'il y a des joueurs derrière qui s'affirment tel Nkunku, ben à un moment, la question se posera pour Antoine Griezmann.
Après, dans les autres nouveaux, bon, on a vu la première entrée de Boubacar Camara. On n'a pas eu suffisamment de matière pour pouvoir le juger. Matteo Guendouzi, qui est aussi l'un des joueurs fraîchement débarqué dans ce groupe-là, était lui titulaire. Alors, je trouve que Guendouzi, j'ai eu du mal à le noter, pour être tout à fait franc. J'ai hésité à mettre un demi-point en moins parce que je trouve qu'on l'a beaucoup vu. Et à la fois, j'ai eu l'impression de le voir beaucoup, mais de pas vraiment savoir ce qu'il avait apporté dans cette rencontre. J'ai pas mal d'actions en tête où je le vois venir au pressing, au contact, mais sans arriver à récupérer le ballon. Balle au pied, à part une très très belle ouverture pour Diaby dans le premier quart d'heure, je l'ai trouvé relativement neutre. Alors, sur des premières sélections, on peut comprendre que les joueurs, surtout au milieu de terrain, jouent un petit peu la sécurité, ne jouent pas avec le feu. Mais voilà, je trouve que Guendouzi, je reste un petit peu sur ma faim. Alors, il y a peut-être aussi l'aspect physique, il a joué énormément de matchs avec l'OM cette saison, donc il y a aussi cet aspect-là qui rentre en compte. Mais c'est vrai qu'on fait la comparaison avec, par exemple, Aurélien Tchouaméni, qui, lui, on a l'impression qu'il est là depuis des années, alors qu'il est aussi dans ce groupe depuis assez peu de temps. Tchouaméni, que j'ai trouvé encore très, très bon ce soir, et qui, malgré un peu de déchets, mais il touche tellement de ballons, c'est normal d'avoir du déchet, encore eu un comportement de vrai patron. Je pense que lui, assez rapidement, le débat ne va pas être de savoir s'il doit être dans le groupe, mais de savoir s'il pourrait prétendre à une place de titulaire pour la Coupe du Monde.
Guendouzi, j'ai bien aimé aussi, et c'est vrai, comme tu dis, c'était plus neutre que ce qu'il montre à Marseille, c'est-à-dire il y a un peu moins peut-être d'impact, un peu moins de, non pas de flamboyance, mais de d'allant, mais première titularisation. Il a eu moins le mérite de faire un match que je qualifierais de propre. Et c'est vrai que sur ces postes-là, c'est souvent une qualité. Donc c'est vrai qu'il n'a pas flanché par rapport à ça. Donc c'est plutôt un bon point. Et j'ai envie de terminer par l'un des autres joueurs. Alors c'est un entrant, mais lui, c'est pas un nouveau. Mais il n'empêche que ces derniers temps, il avait un peu perdu la place. Puis finalement, le petit brassard sur le bras, bah, ça l'a aidé, c'est Presnel Kimpembe, qui pour le coup était un peu dans l'ombre de Lucas Hernandez en défenseur central gauche depuis quelques temps. Et on sait que Lucas Hernandez a quelques soucis ces derniers temps défensivement avec son frère, ça ne marche pas aussi bien qu'on l'aurait imaginé. Et c'est vrai que Presnel Kimpembe, il a commencé par faire c'était un peu la thématique de la première mi-temps, c'est les autopompiers, c'est-à-dire qu'on met le feu et après on va éteindre l'incendie. Il a fait ça un peu moins que Saliba, mais il l'a fait. Et puis après, il a géré en patron. C'est le Kimpembe qu'on a pas assez vu ces derniers temps, mais qui, pour le coup, avec ce brassard autour du bras, a tenu le choc et a fait plutôt de bonnes choses.
Ouais, ça fait partie de ces joueurs, peut-être, qui, avec les responsabilités, sont capables de donner le meilleur. Effectivement, on a vu tout ce qu'on aime chez Kimpembe ce soir, sa capacité à défendre en avançant, à aller agresser le porteur du ballon tout le temps. Il l'a fait notamment avec Modric en première période sur une action. Beaucoup, beaucoup de caractère, d'impact dans les duels. Et en seconde période, j'ai trouvé très très intéressant dans les airs. Alors c'est pas une surprise là non plus, mais il sauve une ou deux situations chaudes sur des centres très dangereux où il vient intervenir de la tête. Donc effectivement, c'est pas un nouveau, mais c'est un renouveau pour Kimpembe parce que ça faisait longtemps, même au PSG, qu'on ne l'avait pas vu aussi convaincant, qu'on ne l'avait pas vu aussi sûr de lui. Alors, on a vu beaucoup d'émotions au niveau au moment de l'hymne national sur son visage, mais encore une fois, peut-être que ce brassard, ça l'a transfiguré. Alors, ça ne sera pas le cas sur la durée en équipe de France. Hein, il va le redonner Hugo Lloris, son brassard de capitaine. Mais ça peut être un match charnière pour Kimpembe dans son histoire avec les Bleus. Et j'ai hâte de voir ce que Deschamps va faire avec lui dans les prochains matchs.
Prochain rendez-vous, vendredi, l'Autriche. Sera-t-il titulaire dans cette défense? Peut-être à 5. Ce n'est pas impossible puisque Varane n'est pas là. Ça ne va pas être le même positionnement puisqu'il faut jouer arrière central vraiment dans l'axe. Et c'est vrai que c'est la position un peu, entre guillemets, de sentinelle de la défense. Le fera-t-il avec Deschamps? On verra. Ce sera la réponse vendredi. Donc l'équipe de France a fait match nul contre la Croatie. On va pas dire qu'il y a victoire obligatoire vendredi, mais ça ferait un peu désordre de laisser encore filer 3 points. Merci Arthur, merci d'avoir veillé, d'avoir brillamment remplacé Martin Mosnier. J'ai envie de te souhaiter bonne nuit.
Eh ben, j'ai envie de te souhaiter la même chose et puis de souhaiter à la Stream King que Martin quand même soit de retour.
Oui, bah, oh, il reviendra.
Il doit manquer à
Pas
tout le
tout
monde.
de suite, mais il reviendra. Voilà.
Voilà.
Mais en tout cas, je te dis bonne nuit, ce qui va faire un peu bizarre aux gens qui vont sûrement écouter ce podcast demain matin au réveil. Non, il n'y a pas de décalage horaire, c'est juste qu'on enregistre très tard pour vous faire plaisir et pour vous combler au moment de votre petit déjeuner, de vos transports en commun, ce que vous voulez, voilà. On se retrouve vendredi, pas l'horaire habituel de la Stream Team en fin d'après-midi, mais évidemment après Autriche-France, donc ce sera très tard et ce sera encore une fois le petit déjeuner ou le brunch du samedi. Voilà, tout est dit. Salut Arthur et à vendredi.
Salut Maxime, salut tout le monde.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.